écoutez IDFM, il est 21h.
Tous ensemble présente Focus. Tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM.
98 FM. Focus. Focus.
98 FM.
Bonsoir à tous, c'est un véritable plaisir de vous retrouver ce soir dans Focus, l'émission qui interroge les parcours, partage les univers. Et comme d'habitude, bah, je suis toujours très très bien accompagné. Comment est-ce que tu vas, Sidi?
Ah, ça va très bien, toujours très 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 bien moi. Tu sais très bien, quand je suis là, on a une émission, c'est cool.
Le sourire aux lèvres, obligé. On salue tout le monde à la technique, hein. Y a Baba là qui nous prend des petites photos. Jamal à la technique, au son.
Jamal classique, comment tu vas Jamal?
Mohamdoullah Sava.
Impeccable.
Et bah, pour ce nouveau numéro de Focus, nous avons l'honneur d'accueillir Malik, Malik Sila.
Bonsoir.
Enchanté Malik, comment ça va?
Salut Malik, salut Sidi.
Impeccable.
Salut Jamal, tout va bien.
Au top. Salut,
tout va bien, merci.
Alors je vais te présenter rapidement pour les gens qui nous écoutent. T'es combattant.
Oui.
Notamment de MMA. Mais t'es aussi entrepreneur, exactement, consultant chez Canal+.
T'es multi-casquette.
Profil aux multiples casquettes, c'est exactement. Ça. C'est un peu un point commun de nos invités.
Exactement, c'est ça. Et c'est le but justement de faire découvrir des personnes qui ont justement plusieurs profils, plusieurs parcours. Et donc là, avec Malik, c'est super intéressant. Donc on va essayer de partager tout ça lors de l'émission. Et puis voilà, hein, Malik.
Pour un bel échange, exactement. Écoute Malik, on se lance un premier petit morceau et on revient tout de suite avec toi, Sidi.
Ouais, je suis là, je reste là, moi.
Slide on the op. It's electric. Hating didn't work, so they lied. These looking hurt and they fried. I know they wouldn't miss them if they died. Tell them move. New Chanel on my body, it's a boost. I'm so popping, I don't ever gotta get introduced. One thing I never call a door, it's a truth. Bring yeah, but can't wait to put that bitch to use. Ooh. Checks coming fast, sound like swoosh. Give him to them straight, 100 proof. Boy, it must be deja vu. It's either that or I'm catching body now.
This that rock music. This that drop location, drop a op music. And this ain't for them in the house. This for Glock you. And don't talk down on Tridges. Too known to be a you. This that pill talk. Gotta bust his head, he cut on op music. Who said you game? Who said you could come around this to hang? And I f***ed your baby mama, and I ain't say a thing. They just came outside in 2020. Pull up in that 21. I pick my side, switches fully. Then I'ma die for 21. I got plenty cars, I hit plenty stars, and then it. I said it plenty times. I pay for bodies, I ain't pay for none. You think I'm finna leave my for you? She future too. I know that Vaughn hit her. She put up on my block and Jimmy Choo. Schmirt.
Ooh, checks coming fast, sound like swoosh. Ooh, give him to them straight, 100 proof. I thought I killed you before, it must be deja vu. It's either that or I'm catching body numbers.
Vous êtes sur Focus, à retrouver tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM. On vient de s'écouter Hot Shit de Cardi B. Nous sommes en compagnie de Malik Sila. Malik Sila qu'on a introduit juste avant ce petit morceau. On va commencer, on va parler de toi, de ton parcours, de ta carrière, de ton histoire. Et ma première question, c'est tout simplement, comment est née cette envie de vouloir affronter la vie sur les rings?
Alors, on dit souvent qu'on rentre pas dans une salle de boxe sans raison. Moi, la raison, c'était je voulais faire du basket. J'ai commencé le basket à Rueil. Au bout d'un moment, on m'a dit mais vous avez payé votre licence, monsieur?
D'accord.
Non, c'est pas gratuit. Pour partir. Et j'avais des potes qui faisaient un peu de boxe. Et j'allais souvent en mission au Leclerc à côté de chez moi. Je devais aller faire des courses et tout souvent. Et je passais devant la salle de boxe toujours. Et un jour, je m'arrête et tout. Je rentre dans la salle et je demande, ouais, bah c'est quand les entraînements et tout. J'aimerais essayer, même sans grande conviction.
D'accord. Juste comme ça.
Juste comme ça. Et le coach me dit, bah voilà, il y a entraînement ce soir et tout à telle heure. Je dis ok, bah je suis venu, on m'a rien demandé, on m'a
pas donné de licence,
pas d'histoire de licence et tout, viens t'entraîner et tout et voilà, je me suis entraîné, j'y ai pris goût et depuis j'ai construit ma vie en parallèle à ce sport-là, enfin
au sport de combat. Boxe. Là en l'occurrence c'était la boxe anglaise.
C'était la boxe anglaise.
D'accord.
Boxe anglaise et voilà, depuis j'ai pas arrêté, je me suis fait beaucoup d'amis aussi grâce à ce sport.
Et pourquoi? Parce que tu leur cassais la gueule avant?
Non. Alors j'étais doué pour le sport. J'étais D'accord. doué pour ce sport-là. J'ai fait pas mal de combats en amateur et j'avais un style. En fait, souvent j'ai reçu 3 fois le prix du meilleur styliste.
D'accord.
Parce que je combattais un peu. Voilà, j'étais
élégant, belle dégaine, tout ça.
C'était toujours
et un touché
peu,
en même temps.
Un peu stylé. Et pour moi, le ring. Et comme ça l'est devenu pour la scène après, c'était un terrain d'expression dans lequel je pouvais montrer un peu plus de ma personnalité. Parce que dans la vie de tous les jours, je suis un peu réservé, peut-être un peu plus réservé. Mais là, le ring et tout, c'était je devenais quelqu'un d'autre. Allez, regardez, je vais vous faire ça. Je regardais Mohamed Ali, je regardais Mike Tyson avec mon père à l'époque. Et sur le ring, j'essaie de reproduire
la même chose, des grosses références en plus. Ouais.
Mais t'as cité deux boxeurs qui ont des styles assez différents.
Exactement,
mais qui ont un beau style aussi.
Ouais,
qui ont une élégance quand ils combattent.
Il y a une élégance, il y a une beauté dans la violence telle que pouvait proposer Tyson. Il y avait une élégance dans la gestuelle de Mohamed Ali. Donc j'essayais d'allier les deux, d'être percutant, mais faire mal aux gens, mais en toute beauté.
C'est pas mal, celle-là. Hein. Je te fais mal, mais vas-y, quand même, c'est beau.
Avec douceur.
Et justement, t'as plusieurs casquettes, là. Bon, on sait que t'es boxeur. On sait qu'aussi, y a pas mal de choses qui t'ont ramené à la musique. Comment t'as pu justement allier les deux? Donc, la boxe, la musique, le rap en l'occurrence, tu vois?
La boxe, voilà, comme je disais, c'est venu un peu comme ça, sur, c'est venu à moi, mais la musique, c'est venu de moi.
D'accord.
C'est-à-dire que moi, mon papa écoutait beaucoup de musique, tout style de musique, beaucoup de musique africaine, la musique guinéenne, je suis originaire de la Guinée-Conakry. Il écoutait Earth, Wind & Fire.
Ouais.
Il écoutait beaucoup de James Brown, il écoutait pas de rap, il écoutait Michael Jackson. Ouais. J'avais vraiment tout type de musique à la maison. Et le rap, par contre, ça est venu à moi de par mon grand frère qui D'accord. écoutait beaucoup de rap français. À l'époque, c'était Expression Directe, beaucoup de Wu-Tang aussi, pas mal de l'époque Time Bomb. J'ai vraiment grandi dans cette et ça m'a mis une gifle. Je dis mais comment ils arrivent à faire ça parce que je suis passé de IAM, parce que j'écoutais un peu IAM, NTM. J'étais pas trop NTM. Mais IAM, ils avaient une certaine poésie, une certaine facilité déjà dans l'écriture. J'étais attiré, par ça. Et quand Time Bomb s'est arrivé, je t'en parle, tu vois, j'ai des frissons. Ouais, j'ai entendu, c'est Hill, pas le temps d'un speech, tout seul face à King Kong comme Jeff Bridges. C'est quoi ça?
C'est vrai.
Qu'est-ce qu'ils font?
C'est vrai.
Et ces gens, en fait.
Et c'est vrai. Et c'est pour ça que, tu sais quoi, on en parle ici, on en parle dans l'émission. Ça, c'est des classiques du rap français. Et en fait, on doit se dire, en fait, quand tu rentres dans le rap, tu dois écouter. C'est obligé.
Il faut connaître.
Il faut que ça rentre dans ton cursus musical, tu vois.
Il faut connaître, je pense. Et voilà. Enfin, quand je parle de l'époque Time Bomb, il y a eu Lunatic aussi.
Exactement.
Alors, est-ce que j'étais chauvin parce que je me disais, ça vient du
9-2,
tout ça à côté. Mais quelque part, ils ont ramené quelque chose de d'incroyable. Quand ils sont arrivés, c'était trop.
D'accord, donc là il y a
ça m'a poussé à moi aussi à essayer de copier.
Et
dire bah si ils font ça, moi j'ai pas égalé le truc.
D'accord.
Un jour même il y avait un grand, il me dit ah, tu fais du rap et tout, ouais je fais du rap. Après il me dit bah vas-y rap. J'ai commencé à rapper un texte de Driver à l'époque. Il m'a dit mais c'est pas toi ça. J'ai dit il m'a dit allez va travailler. Je dis ah ouais.
J'ai changé deux trois textes, deux trois.
Changé, c'est ça. C'était ouf.
Et justement il y a le ring. Et à la scène, c'est pas une forme, justement, tu t'y retrouves, parce que le ring, bah, tu vas combattre et tu mets les gants. Et le micro, bah, tu combats aussi, c'est une forme de combat, le rap, tu vois,
c'est ça, c'est que quand on arrivait à l'époque, j'ai commencé mes premiers textes tout seul dans ma chambre, un peu comme tout le monde. Ensuite, il y avait une plateforme qu'on appelait le bungalow. C'était un bungalow que la mairie avait mis à notre disposition. À cette époque-là, Un peu avant, il y avait un groupe chez moi qui s'appelait Les Derniers Messagers, qui était composé de Jean-Yves, Paix à son âme, de Mourad aussi, Memo. Et eux, c'était eux qui étaient là à l'époque. Ils étaient aussi avec FD à l'époque.
FD, phénomène.
Les gens du Val d'Or, tout ça. Exactement. Il y avait même This Is La Peste qui gravitait à l'époque dans ce circuit-là. Il y avait Raphaël de la Clica, ouais, qui était à côté, qui était à Suresnes, parce que c'était vraiment Rueil, Nanterre, Suresnes, c'est vraiment un triangle dans lequel on est tous ensemble, entre guillemets. Donc, eux, ils étaient déjà en place et voilà, ils m'ont mis un peu le pied à l'étrier dans tout ça. Il y avait le studio, donc on venait, on essayait de rapper et il y avait plein de gars qui étaient là, qui rappaient, c'était tellement fort.
D'accord.
Et
il fallait faire sa place.
Jean-Yves, il lançait une instru, écrivez vos textes là, les gars, une grosse voix, ouais. Écrivez vos textes, les gars, et tout. Ah, on était là, on rappait, on écrivait et tout. Et j'étais pas le plus doué. Mais voilà, je savais même pas c'était quoi un 16 mesures. J'écrivais des pages. Ah, c'est bon, ça fait une page, c'est un freestyle et tout. Ah, c'était un peu n'importe quoi. Et à côté de moi, il y avait Despo, il y avait Nessie, avec qui j'ai fini par faire deux albums après. Il y avait plein de rappeurs qui étaient potentiellement forts, enfin, qui pouvaient péter un jour ou l'autre. Et le fait de les voir de loin comme ça, c'était une concurrence, mais qui m'a fait grandir. Il y avait Blade aussi qui était là, Blade. Respect à mon frère Blade s'il écoute aussi. Blade qui lui m'a appris, il m'a dit mais c'est quoi ça? D'abord, quand tu rappes, 16 mesures, c'est ça. Tac tac, t'as 16. Ah, c'est pour ça qu'ils disent 16 mesures, les chargeurs sont chargés. OK, d'accord. Tac, voilà, tu fais ça comme ça et tout. Et ça m'a beaucoup aidé et ça m'a donné un autre élan dans mon côté de rap en tout cas.
D'accord.
Vous avez sorti des dons là, j'étais
t'es perdu, hein. C'est ça le problème justement, Melik, il faut que tu te mettes à la page. Hein,
voilà, j'aime bien.
Il y a Jamal qui valide.
Ouais, c'est normal.
Non, ouais, j'avais pas toutes les refs. Et tu l'as poussé jusqu'où ta petite carrière dans la musique?
Dans le rap, j'ai sorti un premier projet solo qui s'appelait Reflet de rue en 2002. J'étais parti j'ai dit ah ouais, j'en avais marre de pas être celui qu'on invite sur les morceaux. J'ai dit je vais faire mes propres trucs. M'en fiche comme ça. Et c'est Memo qui était à l'époque, qui rappait aussi, qui était là, qui représentait Dernier Messager, tout ça. Il me dit mais fais tes propres trucs, arrête de demander, arrête de tendre la main à la mairie, là, fais tes propres trucs.
Exactement.
Ça, c'était en 2002. Donc j'ai dit ok, et je lance ce projet. Donc la pochette, les gens dessus, le pressage, tous ces trucs là, j'ai dû apprendre moi-même.
Et je sais même pas, tu lui parles là, ça se trouve il est perdu là, il comprend pas. Pressage, pochette,
pressage. Fallait faire le class master.
Pochette, ça va, pressage moi.
Pressage. J'ai pressé 1000 CD que j'ai avant. À l'époque, il y avait ce qu'ils appellent le dépôt vente. Ouais, fallait aller à la Fnac. J'allais à la Fnac, je déposais mes CD, ils me faisaient un truc dépôt vente et je revenais. Bah c'est bien, t'as vendu 3 CD. Ouais, ok, d'accord, donnez-moi l'argent et tout. J'allais sur Châtelet, j'allais au puce, j'ai connecté avec Alpha 520 à l'époque. Alpha 520, Orozco,
qui était en place
déjà. Eux, c'était, et ils vendaient des disques. C'est-à-dire que j'ai vendu des disques aussi là-bas. Et ça t'ouvre l'esprit sur plein de choses, Ça permet de rencontrer des gens. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça se dit ça au jour d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, voilà.
Ça, c'est des rencontres qui m'ont apporté beaucoup de choses. Alpha 520, cette mental de vendre les disques un peu comme si on vendait vendeur à la sauvette au Sénégal. Ça tout le monde vend pour se, tout le monde se débrouille entre guillemets pour pouvoir gratter quelque chose, mais j'ai rien volé. J'ai produit avec l'argent, j'ai sorti un projet avec l'Amérique qui s'appelait je me rappelle plus exactement du nom, projet de jeunes, truc d'aide aux jeunes, quelque chose comme ça. Donc j'ai récolté à l'époque c'était 1000 euros, 2002 il y avait les euros, et j'ai sorti le disque.
D'accord.
Et c'est beau, c'est un charme, alors qu'aujourd'hui on balance.
Bien sûr, c'est un charme, parce que en fait, avant, tu savais ton produit, tu savais que, enfin, t'as sué pour le faire, tu vois. Il y avait pas tout ce qui est justement là aujourd'hui autotune. J'ai rien contre ça, au contraire, tu vois. Mais quand tu, là, on t'écoute, on voit que, en même temps, t'as galéré, mais en même temps, ça t'a forgé, tu vois.
C'est ça.
Et ça ouvre des portes et voilà, tu vois.
Et tout ça, tu l'as un peu connu aussi, si tu
dis. Ouais, moi, je l'ai connu aussi quand j'étais dans la musique, tu vois, à l'époque, hein, tu vois. Mais, et c'est pour ça que je me retrouve, en fait, dans ce qu'il dit, parce que on a fait aussi la même chose. Et Jamal aussi, il sourit, tout ça, mais c'est vraiment ça, tu vois. Et justement. Voilà. Et ce rapport que t'as justement avec la musique, comment on arrive justement au MMA? On passe de la boxe déjà, après à la musique, et là on revient justement, comme on disait tout à l'heure, au MMA.
On parlait je parlais de compétition tout à l'heure, le fait d'être dans une pièce avec des requins, t'es un poisson gentil.
Ouais,
c'est là, tu dois prendre, ben, la boxe, c'était un peu pareil. Sauf que j'avais des facilités dans la boxe. J'avais des facilités. Je suis vite devenu un peu une référence dans la salle. Autour de moi aussi, j'avais mes potes vraiment avec qui j'ai commencé le sport aussi, commencé à prendre du niveau.
Okay.
J'ai mon gars sûr, qui est le parrain de ma fille, Philibert, qui est rentré en équipe de France de boxe. Moi, j'avais ces facilités-là, mais j'étais pas un bosseur.
Okay. C'est-à-dire
que quand je suis arrivé en finale du championnat de Paris face à Jim Lackley de Aubervilliers, Boxing Beats.
C'est là où on a tous commencé en plus.
Hey, quand ce mec-là m'a rousté, a pushé devant tout le monde, j'ai dit, c'est ça en fait le sport. D'habitude, ça fait pas mal.
Ouais.
C'était mon 12e, 13e combat. Mais il m'a fait mal, le gars. Jim Lackley qui a arrêté la boxe.
Et
j'ai affronté d'autres gars aussi, des mecs d'Aubervilliers. J'ai pris un knockdown. À Rueil, chez moi, devant tout le monde, j'ai pété les plombs, j'ai jeté mon casque, j'ai crié sur tout le monde. Il y avait ma mère ce jour-là dans la salle.
Je crois qu'à l'époque, je devais être là.
C'était n'importe quoi. Et Jean-Yves est venu me voir dans les vestiaires. Il m'a dit, écoute, Malik, ce que t'as fait là, c'est pas un truc. Reviens, excuse-toi devant les gens. Il y avait ta mère dans la salle, il y avait des trucs là. C'est pas ça.
Parce que t'es parti, t'as perdu.
Ouais, j'ai perdu. Genre, l'arbitre, fallait pas arrêter l'arbitre devant mes gars. Genre, j'étais, tout le monde savait que, voilà, ah, Malik, c'est bon, il s'est boxé. Et là, devant tout le monde, dans mon quartier, je me fais sonner. J'ai pas accepté. Donc, je suis remonté sur le ring, la voix tremblante. J'ai présenté mes excuses à tout le monde. Et voilà. Et même ça, ça m'a fait grandir.
Exactement.
Et c'est pour ça. J'ai appris quelque chose.
Et c'est bien de le dire, parce que quand tu montes sur scène, déjà, quand tu montes sur scène, donc il faut avoir quand même, comme on dit, il faut avoir des tu vois, et quand tu montes sur le ring, c'est pareil en fait, tu vois, c'est exactement la même chose. Et là, le fait que tu dises aussi que tu peux avoir des revers aussi et que tu peux avoir des défaites et que tu l'assumes et que tu vois, c'est fort aussi de le dire à toute la jeunesse qui arrive et qui, ça fait deux jours, ils font de la boxe,
c'est ça,
ils font les, tu vois, donc c'est super important de le dire.
Ce que je dis aux jeunes qui arrivent dans mon club, parce que j'ai un club de MMA.
On va en reparler tout à l'heure.
Fighting Beats.
Okay.
Je me suis inspiré du Boxing Beats d'Aubervilliers pour le nom. J'espère que Saïd va pas me faire de procès.
Ah, attends, il écoute non, en plus Saïd, attention. Hein.
C'est le nom en fait, parce que pour moi, Beats, c'est inspiré, pour moi c'est Fighting Beats, mais c'est dans le combat, il y a un rythme. C'est important de donner du rythme. C'est aussi un parallèle à la musique.
Exactement.
C'est vraiment une alliance de mes deux passions. Donc c'est Fighting Beat, c'est un hommage un peu à tout ça. Mais oui, il y a un parallèle pour moi entre la scène et le ring, parce que pour moi c'est un lieu d'expression.
Comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment ça.
C'est ça, je monte dans la cage, je monte dans le ring, je vais vous montrer ce que je sais faire, vous allez voir, voilà, je suis un artiste.
Ouais.
Je suis un artiste, que ce soit dans le ring, à l'entraînement, même l'entraînement, j'essaie de faire des trucs beaux en fait, c'est ça. Marquer les gens d'une certaine façon, faire passer des émotions d'une certaine façon, que ce soit avec des coups. Quand je combats en Suisse face à un Brésilien champion du monde et tout, qui était sur le papier censé me casser la tête en deux, je lui mets un perfect, je lui mets un back fist.
Ouais.
Un back fist, alors tout le monde regarde. Wow,
ceux qui connaissent pas, tu peux expliquer le back fist.
Point retourné. Ouais. Les trucs qu'on voit que dans les jeux vidéo là.
C'est ça.
Et je lui mets ça. Et Joey Stark était là au jour-là et tout. Ah, oh, tout le monde regarde, c'est qui ça? Bah, si j'avais pas fait ça, peut-être que je serais passé inaperçu.
Inaperçu,
alors que ce jour-là, j'ai performé, j'ai brillé et ça a marqué les gens.
Exactement. On peut faire un parallèle quand tu montes sur scène et que tu fais un hit ou un morceau où tout le monde va réagir, ou une punchline où tout le monde va réagir, tu vois. Donc c'est super important.
Je suis pas assez connaisseur en anglais, j'aurais pas les noms, mais je sais qu'il y a des boxeurs qui sont connus pour limite être des chorégraphes.
Ouais, exactement.
Ouais, boxer sur des morceaux en rythme et c'est magnifique, quoi.
Et tu crois qu'ils dansent en même temps,
ouais,
tu vois.
Carrément.
Mais ils dansent, mais ils t'éclatent la gueule aussi en même temps.
J'ai un maghrébin en tête, je sais plus comment il s'appelle.
Prince Nassim Ahmed. Pakistanais, je crois.
Ouais.
Ah, c'était Pakistan?
Ouais.
Ok, je pense que c'était maghrébin.
Anglais.
Bah, c'était magnifique.
Et justement, comme tu disais, t'avais une question?
Non,
c'est bon. Tu dis que t'as une certaine rage et tout ça pour aller sur scène ou dans la cage. Et souvent, on se pose la question, ouais, c'est que des fous qui font des combats et tout ça. Donc, on vous rassure, hein, t'as rien de fou. Donc, au contraire, t'es arrivé super tranquille, super. Comment tu vois ça, tu vois, cette image, toi? Que, l'image d'un mec tranquille, mais qui sur le ring.
Je dirais pas fou, mais on.
Il y a une certaine folie.
Voilà, il y a une certaine folie. On apprend à dompter ce truc-là parce que, aller au-delà, les gens disent ça parce qu'ils vont pas au-delà de leur peur. Ça fait peur que d'aller dans une cage, te dire tu vas te livrer, 100% à 100% face à un mec qui lui aussi veut remporter ton scalp devant exactement. Sa famille, devant ses amis, tout ça. Donc ouais, il y a une peur, mais c'est ça qui nous motive quelque part. J'ai peur, mais j'y vais. Aller sur scène, c'est pareil, ça fait peur, on a la gorge sèche et tout, faut rapper, il y a plein de yeux et des gens ils sont sur leur téléphone, ils regardent, ils s'en foutent de ce que tu fais s'ils viennent pas pour toi. Donc tout ça fait peur, mais comment est-ce que tu captives l'attention des gens? Ça fait partie de ton secret aussi, de ce que tu travailles dans la salle, de ce que tu travailles à l'entraînement, de ce que tu travailles quand il y a personne.
Exact.
Quand t'écris, ça fait partie de tout ça en fait.
Et il y a des morceaux que t'écoutais de musique avant tes combats, que
avant de rentrer motivé, sur scène.
Ouais. Alors c'est ça en MMA, parce qu'en anglaise on n'avait pas, y a pas ça dans le. Bah, quand t'arrives en, alors peut-être en boxe pro, moi j'ai pas combattu en pro en anglaise. Après, en amateur, le seul truc que t'avais droit c'était un sandwich à la fin, tu vois. T'as pas le droit de venir avec ta musique.
Ouais, ouais.
Donc en MMA, quand j'ai commencé à combattre en MMA, on m'a dit bah tiens, tu peux mettre ta musique et tout. Je dis ah ouais, qu'est-ce que je vais mettre. Donc ouais, il y a des musiques qui donnent de la motivation, qui donnent envie. Pour moi, un des combats vraiment de référence, c'est ce combat que j'ai fait en Suisse, là. Vraiment, j'étais outsider de fou. Je rentre sur Hottnegger de Bobby Schmurda. Ce jour-là, j'aurais pu battre n'importe qui.
Ok.
N'importe qui. Quand je rentre sur ce son-là.
Parce que c'est quoi? C'est le son qui t'a motivé?
C'est la prépa, même. Ouais. J'ai reçu, quelques jours avant, j'avais reçu de mon oncle, paix à son âme, une lettre. Qui expliquait un peu l'histoire de la famille depuis 175 ans.
Ah, oh, extraordinaire.
Qui me disait, voilà, nous sommes les descendants de tel cueilleur-chasseur qui est devenu quelqu'un d'important.
D'accord.
Jusqu'à mon grand-père qui était roi de Téné, qui est un patelin en Guinée. Et il lui dit, voilà, ça termine par, voilà, brièvement, quelques bribes d'histoire de votre famille. Mais c'est écrit dans un français. Je te jure que c'est un français que même tes profs, ils parlent pas comme ça, tu vois.
D'accord.
Il m'a écrit ça et ça m'a redonné une fierté, ça m'a redonné une couronne presque. Je me suis dit oui, c'est vrai, mon père qui me disait oui, ton grand-père c'était un roi et tout, il avait 14 femmes, tout. Tu dis ah d'accord.
Et là c'est confirmé.
Et toi t'es en France, ouais. On vit dans un truc. Quand on va chercher les affaires au Resto du Cœur ou l'aide sociale, on pense qu'on a un plan et c'est mortel, ouais. Tu vois. Alors que non, on est aidé entre guillemets. Ça me remet en phase avec qui je pouvais être réellement, qui je pouvais être.
Ouais, ouais.
Et du coup, quand je rentre sur Bobby Schmurda, il y a tout ça qui revient. Et je marche jusqu'à la cage. Ça dure longtemps. Je rentre dans la cage. Il y a le Brésilien qui est là. Pour moi, je le voyais comme ça.
Tout petit.
Tout petit.
Exactement.
Tout petit. Et je l'ai rousté.
C'est bien. Ouais, on peut retrouver les combats peut-être
sur YouTube.
Sur YouTube. Allez taper Malik Sylla. Vous allez voir les KO. Et voilà.
Bon, on va rester sur le thème des musiques que t'aimes.
Ouais.
On a une petite coutume ici, on lance des extraits.
Mm-hmm.
Et on va te laisser reprendre à la fin de chaque extrait et tu vas nous dire en quoi ces sons-là te font écho, en quoi ils te parlent.
Jamal.
Never. Hey, you ain't never had a friend like me. Believe that. Cause you ain't never had a friend like me. See, at night I watch the sky, I take another breath, I smoke my new boy to the butt like it's the last motherfucker left. Just me and you evading enemies, let you get my last shot of Hennessy. Ain't never had a friend like me. Remember memories so vividly, was once a little dust kicker, now becomes a G. Who can I call when they all fail? Collect calls to my dogs from the county jail, sending me mail, heard the blocks in the same shape. Ain't nothing changed, niggas slanging at the same place, the same faces, supposed to always hate our foes. This lifestyle is forever, watch the game unfold. Shedding crocodile tears, just got life plus. And you wonder if these white judges like us. Just stay strong, we'll appeal, nigga, you'll be free. Down with you to the very end. Cause you ain't never had a friend like me. Friend like me, 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 friend like me.
Aye, aye, aye. Down for you, so ride with me. My enemies, your enemies, cause you will never have a friend like me.
Je t'ai vu fermer les yeux sur le son.
On a vu, ça t'envoyait loin. Est-ce que tu peux nous expliquer justement déjà, bon, on sait que c'est Tupac, tout ça, mais en quoi ce son-là, il te parle?
Pour moi, l'amitié, la loyauté, c'est quelque chose d'important. J'ai grandi à Rueil-Malmaison. C'est une ville riche.
Ouais,
c'est une ville, dans laquelle on a nos chances. Mais c'est une ville aussi dans laquelle il y a un gros contraste social. Moi, j'ai grandi dans un quartier de la ville. Voilà, socialement parlant, on n'était pas les plus
riches.
Voilà, les plus riches, tout ça. Donc, on grandit, terrain de foot. Voilà. Je pense que quand j'allais en vacances chez mon cousin à Saint-Denis, j'en trouvais la même chose.
Ouais.
J'allais chez mon cousin Tierno Baldé à Saint-Denis, c'était pareil.
D'accord.
Sauf que, voilà, moi, j'ai grandi à Rueil. enfin voilà, j'avais des amis, des trucs, mais il y avait toujours quelque chose, je sais pas, au fond de moi. Alors c'est vraiment perso, mais voilà, quand j'écoutais ça, je me dis ouais, l'ami que j'aurais voulu être, bah en vrai c'est moi. Faudrait que je sois mon meilleur ami. Il faut que je puisse apprendre à me faire confiance. Faudrait que je puisse compter sur moi plutôt que de porter ma confiance et tout sur quelqu'un d'autre.
C'est exactement.
Sur quelqu'un d'autre, parce que tu peux être déçu, tu peux.
Ça veut dire, en fait, tu fais confiance à personne si tu fais,
moi, j'ai la chance d'être quand même entouré. Je suis pas seul. J'ai des amis que je ne vois pas tous les jours.
Mais sur qui tu peux compter.
Sur qui je peux compter. Quand je pense à ça, enfin, quand j'écoute ce morceau, je pense à eux. Mais en même temps aussi, je pense à moi, parce que eux, ils sont pas là, ils ont leur vie, ils ont.
Exactement.
Et moi, dans tout ça, je peux pas blâmer qui que ce soit. Il faut que je puisse avoir cette force quand même quand je dis cette force, de pouvoir croire en moi, de pouvoir compter sur moi et de savoir surtout que bah même dans certains moments tu peux compter sur d'autres, mais ton ami ça doit être toi aussi.
Tu y a que sur toi que tu peux compter. Voilà, en fait, même si t'as des amis
et que sur toi tu peux demander des conseils aux gens, tu peux, mais il y a que toi qui va faire en sorte de pouvoir réaliser certaines choses. Personne va venir te porter,
exactement,
te dire tiens va chercher ça ou va t'entraîner. Mais des fois j'ai pas envie d'entraîner, j'étais là à Aubervilliers.
Ouais.
C'est pas avec plaisir que je prends des coups de poing de la part de Saladin Parnasse. ça fait pas du bien.
Ouais,
mais
ouais.
Voilà, il y a que moi tout seul, je suis obligé de me lever, prendre ma voiture, venir ici et de m'entraîner, parce que quand je serai dans la cage, quand je serai dans le ring, bah je serai face à moi-même. Voilà. C'est ça un peu.
Et c'est beau de le dire, et franchement c'est une philosophie justement de vie qui, tu vois, qu'il faudrait appliquer un peu à tout le monde. Après on s'y retrouve, enfin moi je m'y retrouve dans ce que tu dis. Et le truc que je me dis, c'est qu'en fait peut-être que la personne à qui je parle, elle pense pas forcément comme moi, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important de le dire et de pouvoir se détacher de tout ça, tu vois.
Exactement. Je pense que c'est le travail d'une vie, de toute façon. Et
ouais,
que
exactement. Je pensais pas comme ça. Je vais te dire, il y a 15 ans, 15, 16 ans, je pensais peut-être pas comme ça. Je pensais que mes potes, ils allaient assurer mes arrières, quoi qu'il arrive et tout, jusqu'à ce que.
T'as une galère.
Voilà, il y a une galère. Tu te retrouves
tout seul.
Tu dois gérer. Tu peux appeler. Tu peux demander. Mais voilà, ils vont pas peut-être mettre la même énergie.
Que si c'était
toi.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'en vrai, si c'est leur. Enfin, je veux dire, c'est pas leur problème, mais c'est pas grave de dire ça.
Ouais, c'est pas
grave, mais c'est pas leur problème. Ils vont faire ce qu'ils peuvent, mais la solution doit venir de toi, doit émaner de toi-même.
C'est vrai.
Et il faut pas les blâmer s'ils peuvent pas le faire. On peut pas leur en vouloir, parce que ça incombe. Enfin, il y a des responsabilités qui t'incombent à toi-même d'abord.
C'est ça. Mais on va s'écouter, comme tu disais, Melik.
Un deuxième petit extrait. Merci Tupac pour ce beau moment de philosophie, pardon. Et merci à toi, Malik.
Light nigga, dark nigga, faux nigga, real nigga, rich nigga, poor nigga, house nigga, feel nigga.
Ah, tu rappais en français ou tu rappais en anglais aussi?
Enfin, j'ai rappé en anglais.
D'accord.
C'est vrai que ça se sent.
Ça se sent, parce qu'à chaque fois qu'on a des sons et des gros sons en plus que tu nous fais ressortir, c'est mortel. Et pareil, ce son-là, il te fait penser à quoi? On te voyait bouger la tête, rapper en même temps, tout ça. Donc, c'est quoi?
Jay-Z, quelque part, c'est une inspiration aussi pour moi, dans le sens où c'est quelqu'un qui est parti. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Jay-Z, c'était un vendeur de drogue.
Ouais, il est parti de rien. Clairement,
il est parti de rien. Et le gars, il dit voilà, à l'époque, dans ce morceau en tout cas, il dit à l'époque où il vendait de la drogue, il avait de l'argent. S'il avait acheté un appartement à Dumbo, comme il dit. Il aurait vendu 20 fois le prix aujourd'hui.
Ouais.
Enfin, c'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui a bâti un empire sur ce qu'il a. Il a construit brique par brique, en commençant par lui, Rockefeller, avec son gars. Il a été épaulé.
Exactement.
Et aujourd'hui, voilà, on sait ce que c'est Jay-Z, même politiquement parlant. Jay-Z, il peut te faire gagner, gérer une élection.
Exactement, c'est ça.
Le mec, il est tellement influent. Et pourquoi ce morceau dans ce morceau, il dit voilà, feel nigga, poor nigga, rich nigga. En gros, quoi qu'il arrive, tu seras, on te verra toujours comme un noir.
Ouais, c'est ça.
Déjà, donc ça c'est quelque chose qui, c'est une réalité, même en France. Alors aux États-Unis c'est différent parce qu'ils ont une autre histoire, mais en France aussi, bien qu'on ait été colonisé il y a des années, on nous parle encore de. C'est, je veux pas faire un discours genre, on revient avec les mêmes salades, mais c'est une réalité malheureusement. Je m'appelle Malik Sylla, je vais chercher un appartement, on me regarde un peu. Ouais, d'accord. Pour louer un appartement, c'était des problèmes.
C'était des galères.
Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, moi, je suis propriétaire. J'ai dû acheter mon appartement. J'ai monté.
C'est pour. Ouais. Ouais,
en fait, je voulais revenir, pardon, sur le pourquoi, enfin, sur l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui m'a poussé justement à tout ça? Quelque part, c'est la liberté.
Ok.
J'ai avoir sa liberté. Malheureusement, dans cette société de consommation, sauf si on veut vivre, comme disait Booba, tu vives dans la jungle et tout, tu peux être libre, tranquille, personne va venir t'embêter. Mais dans le monde dans lequel on vit, aujourd'hui, si tu veux être libre, si t'as pas d'argent, c'est compliqué.
Il faut de l'argent pour être libre.
Il faut de l'argent pour être libre. Donc, de par mes activités de coach, de par mes activités, voilà, j'ai bossé, j'ai mis en place 2-3 trucs. Je prends la métaphore de la poule et des œufs. J'avais des œufs. Et avec ces œufs-là, j'ai acheté une poule. Donc, j'ai monté un barbershop.
Exactement.
Un barbershop qui s'appelle The Cut Barber and Shop à Rueil-Malmaison. Quand j'ai monté ce barbershop, l'influence de tout ça, ça a été Jay-Z, tout ça, comment je monte les trucs et tout. Et comment est-ce que je m'en sors? Parce que dans ce son, il dit, financial freedom, my only hope. En gros, il parle de ça, il dit, son seul espoir, ça a été cette indépendance financière.
Ouais, de se débrouiller tout seul.
Se débrouiller. Donc, j'ai appris à me débrouiller tout seul et ça a changé ma vie.
Ça a changé ma vie
et je change la vie d'autres personnes. Et ce qui me plaît le plus dans tout ça, c'est de permettre à d'autres personnes de changer leur vie aussi parce que j'ai des employés. Exactement. J'ai des gens qui viennent de loin, qui ont appris à travailler, à qui on les a aidés d'une certaine façon et aujourd'hui leur vie, elle change.
C'est incroyable.
C'est un vrai truc pour moi.
Et c'est important de le dire. On voulait en parler de tes plusieurs casquettes et justement que tu étais commentateur sportif, coach, que t'as ouvert aussi un barbeur, tu vois. Et tout ça, on le fait pas comme ça.
On le fait pas comme ça. Ça m'a pris du temps, ça a pris de l'argent, ça a pris des efforts, ça a pris des nuits d'insomnie, ça a pris beaucoup de choses, ça a des erreurs. Par exemple, le confinement, j'ai ouvert moi le 14 janvier 2020. Mars, confinement arrive.
Plein dedans.
Mais même dans tout ça, je pense que le confinement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée en tant qu'entrepreneur.
D'accord.
Parce que ça m'a forcé à m'asseoir et à me concentrer.
Et te dire comment tu vas
trouver des solutions. Voilà, comment je vais faire aujourd'hui? Comment je vais faire?
Et justement, tu peux nous dire comment ça fait?
J'ai posé des questions. Heureusement, comme je dis, je suis entouré. J'ai des mentors, entre guillemets. J'ai des gens qui ont des boîtes autour de moi, des entreprises, des gens à qui je donnais des cours, j'en ai posé des questions, ils m'ont mis sur des pistes. Ça, le fait d'être entouré, d'avoir un réseau, ça aussi, c'est hyper important. C'est hyper important parce que les erreurs des autres peuvent vous servir.
C'est exactement ça.
Pas prendre aussi tout ce qui... Mais savoir adapter ce qu'on vous dit, pas écouter le dernier qui a parlé non plus. Mais c'est... Voilà, ça peut être riche d'enseignement que de parler à des gens d'expérience. Ça m'a beaucoup aidé. Et je suis revenu plus fort aujourd'hui, le salon. Ma seule difficulté par rapport au salon aujourd'hui, c'est le recrutement. C'est dur de recruter des gens qui partagent la vision et qui veulent rouler pour une équipe. Pas des mercenaires qui veulent faire de l'argent et se dire... Donc j'ai des gens, je suis bien entouré, j'ai des gens qui font le boulot. Le salon, il est full toute la semaine, grâce à Dieu. Les plannings sont remplis et c'est une affaire qui roule. Et j'espère que ça va rouler encore longtemps. Mais ça a demandé du travail et des sacrifices.
Écoute, tu nous proposes des analyses musicales magnifiques qui retracent ton parcours magnifiquement. On est clairement dans le concept. Merci beaucoup Malik, on passe au troisième et dernier extrait.
Lunatique Booba Ali, 9 de I, à la vie, Inch'Allah, général. Pas le temps pour les regrets, les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes. Nés pour amener ma part de progrès, pour qu'à mon tour je procrée.
Ah là là, quel album, hein. Incroyable.
Et justement, Malik, Qu'est-ce que ça t'inspire aussi, ce son-là? Justement, pas le temps pour les regrets. C'est vrai que t'as pas eu le temps pour les regrets.
Pas le temps pour les regrets. Il faut
avancer.
Il faut essayer. L'un des plus grands professeurs, pour moi, ça a été l'échec. L'échec, que ce soit sportivement parlant. J'ai commencé le MMA, j'ai mangé 5 défaites d'affilée.
Ok.
Bah, après, il y a plein de raisons à ça. Le MMA, c'était pas ce qu'il était maintenant. Moi, j'ai commencé ma carrière pro. Aujourd'hui, il y a des amateurs et tout. On passe. Mais avant, pour combattre, il fallait aller à l'étranger. Donc, moi, j'ai été en Lettonie, j'étais en Russie, affronter des gens qui combattent pour nourrir leur famille. Alors que moi, je m'entraînais entre 20h et 22h.
Ah, c'est du loisir pour toi,
Je suis un loisir. Ouais, ouais. Et ils étaient là, mais tu sais, moi, je dois nourrir ma famille. C'est pas contre toi. Ouais, donc, c'est ça. J'ai dû apprendre de façon la plus difficile. Mais aujourd'hui, c'est ça qui a fait que j'en suis là aussi aujourd'hui. Je m'entraîne différemment. Je vois les choses de manière différente parce que j'ai échoué beaucoup. Parce que j'ai échoué beaucoup, musicalement parlant aussi. Je suis pas connu du grand public.
Ouais, ouais.
Mais j'ai appris tellement de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je sais comment on enregistre. Je sais comment on diffuse de la musique. Je sais parler contrat. Je sais parler distribution. Je sais parler showcase. Je sais parler tourner. Tous ces trucs-là, c'est des choses que j'ai fait.
Et pourquoi tu reviens pas, justement? Si jamais c'est quelque chose.
On y travaille. J'y travaille.
D'accord.
Souvent, je me dis ça. Be all you can be. Deviens tout ce que tu peux être. Donc, c'est pas fini encore.
D'accord.
Tant qu'il y a de la vie, on travaille dessus et dans la journée, voilà, je m'accorde toujours un petit temps pour je reçois toujours des sons, j'écris, je sais pas, mais dans des directions différentes, dans une optique différente et vers peut-être un public différent.
OK. Et par rapport à ça, au son d'aujourd'hui, tu t'y retrouves un peu? Les musiques là qui sortent là depuis
pour moi la musique a beaucoup changé. Il y a pas de je me retrouve pas dans le sens où quand j'écoute l'album de Lunatic, emporté et tout. Quand j'écoute un album aujourd'hui d'un artiste qui est un peu présent, on va prendre Gazo par exemple qui est là. Si je consomme ça comme tu consommerais un coca, tu vois, tu sais que c'est pas bon de ouf pour toi. Mais sur le coup, c'est bien, tu vois. Les chips, c'est pareil. Tu sais que c'est pas bon.
Mais tu consommes,
tu vois.
Tu te laisses aller.
Ambiance, tu te laisses aller. Tu vois. Mais c'est pas ce que j'écoute quand je prends, quand j'ai envie de me poser et tout. C'est pas ce que je vais, tu vois.
Je vois tout à fait.
C'est pas mon bissap, c'est pas mon ginger, mais
ouais, c'est pas les musiques qu'on écoute avec soi-même.
Mais ça a beaucoup changé aujourd'hui. Il y a tellement de trucs autour de toi, donc tu prends, tu consommes.
C'est ce qu'on disait, tu consommes. Et avant, t'allais justement à la Fnac, t'allais chercher ton CD, tu vois.
Ça, c'est une époque fou, quand même.
Il avait une valeur, ton CD.
Quand fallait aller à Ticaret, quand fallait aller à la Fnac, quand fallait aller à Châtelet, tout ça, et pour aller chercher les, écoute, même au pouce. Il y a que les mecs, ils disaient, avant d'acheter ton disque, tu pouvais demander à Alpha, vas-y, fais-moi écouter.
Ouais, exactement.
Vas-y, ouais, j'achète.
Voilà, j'aime bien.
Ça, c'est
Jam, il aime bien. Il a parlé de Ticaret, ça y est, c'est bon. Souvenir, les vinyles.
Après l'époque d'aujourd'hui, musicalement, a du bon aussi. Ça fait émerger plein de talents, de jeunes talents. C'est différent.
Ça colle à notre époque. Je dirais pas que c'était mieux avant. C'est différent.
Voilà,
c'est complètement tout. Différent. On attendait des albums longtemps. Il y a l'album qui sort. On l'achetait. Le CD, c'était même une relique. T'avais le CD. Les gens, ils s'appliquaient sur les pochettes.
Exactement.
On ouvrait les trucs, les dédicaces. Fallait regarder les dédicaces. Qui était dédicacé dedans? Il a dédicacé ton quartier. Waouh, ça c'est quelque chose. Personne dédicace personne aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai.
Aujourd'hui, rien à foutre aujourd'hui.
Voilà.
Là, tu fais ton album,
tu sors.
Ça marche. Sinon,
c'est ça.
Ah ouais, c'est consommation de masse, c'est comme ça, mais.
Et justement, bon, on en a parlé, mais tu dis, t'as eu des défaites justement par rapport au MMA et tout ça. Mais comment tu fais pour te relever? Ça veut dire que, tu vois, comment tu fais? Parce que tu t'es entraîné, c'est du temps.
C'est dur. Ouais. Parce que tu te remets même en question. Tu remets en question. Parfois aussi, tu regardes ton coach. Tu dis, est-ce que c'est lui? C'est bien son job?
Ouais.
Mais là encore, je me suis retourné vers moi-même. Qu'est-ce que je peux faire de mon côté pour m'améliorer? Et là encore, c'est ma responsabilité. Si j'estime que le coach avec lequel je suis n'est pas à la hauteur de m'apporter ce dont j'ai besoin, c'est ma responsabilité de prendre mes clics et mes claques et d'aller faire autre chose. Tu peux pas en vouloir aux gens toute ta vie, être aigri, dire ouais, c'est à cause de lui. C'est pas à cause de lui.
Exactement.
C'est pas à cause de lui. C'est toi. Il y a des choses à faire. Maintenant, si toi, t'estimes que y a pas ce qu'il faut, prends-toi en main, quelque part. Prends-toi en main.
Et c'est pour ça que tu prends en main aussi, tes coachs.
Voilà, je suis coach et j'essaye d'apporter à ces jeunes et moins jeune que j'encadre. Autre chose, m'inspirer de mes erreurs aussi, des erreurs que j'ai pu observer, pour les amener le plus loin possible, s'ils en ont envie. Ça aussi, c'est une erreur que tu fais des fois, enfin, que tu peux faire en tant que coach débutant, c'est de le vouloir plus que ton élève. Si toi, tu le veux plus que l'autre, ça va pas marcher.
Okay.
Tu peux pas vouloir plus que ton élève, aller le chercher chez lui, dire viens t'entraîner et tout, ça marche pas comme ça. S'il veut pas, on fait un sport difficile déjà, c'est dur d'aller se faire taper, de taper les gens et tout, c'est physique et tout, c'est tout ça. Si lui il a pas envie, je vais plus me casser la tête, c'est ton choix. Pas moi de venir te chercher pour que tu viennes t'entraîner, c'est pour toi, c'est pas moi.
C'est vrai.
Et quelle place elle prend l'équipe autour d'un combattant dans sa carrière? Est-ce qu'un Georges Saint-Pierre avec une autre vie, un autre parcours, un autre club aurait pu être le champion qu'il a été?
Une autre vie, je sais pas, pour avoir... Moi, Georges Saint-Pierre, c'était un de mes modèles aussi dans le MMA. J'ai eu l'occasion de le rencontrer aussi dernièrement. On a discuté de plein de choses. Georges Saint-Pierre, c'est quelqu'un qui a été, entre guillemets, racketté à l'école. Il se faisait un peu violenter, tout ça. Mais voilà, il a pris son destin en main. Il est parti dans une salle de MMA. Et voilà, il est devenu le champion qu'il est aujourd'hui. Mais son entourage aussi l'a beaucoup aidé. Et que ce soit Firas qui est son coach ou d'autres, voilà, c'est le team aussi qui a fait que ce que je dis à mes élèves, quand vous venez, vous apportez votre énergie aussi aux autres, mais c'est le groupe aussi qui, c'est quand on est ensemble, voilà, celui qui vient il fait profiter à tout le monde, celui qui reste chez lui, bah c'est que pour lui aussi, tant pis pour lui entre guillemets. Nous on est là, même si on est trois, et ben ce qu'on va faire à trois là, déjà ça va nous servir à tous.
Exactement.
L'économie du savoir, c'est pas quelque chose qui te fait perdre. C'est-à-dire que moi, si j'enseigne une technique à quelqu'un et lui il apprend, il la garde, il va l'enseigner à quelqu'un, ça se multiplie. C'est quelque chose qui est exponentiel. Alors que quand t'es égoïste, bah c'est...
Quand t'es égoïste, tu fais pas des sports de combat, c'est t'es égoïste en fait, tu vois.
Mais c'est, ouais. Moi j'ai fait j'ai commencé par les sports co.
Ouais, ouais.
Et je fais du grappe et tout, okay. Du JB. C'est vraiment dans ces sports-là que j'ai trouvé un esprit fédérateur.
Ouais, c'est là. Quand tu vas dans une salle de sport, certes, il va y avoir de la concurrence parce que tu vas monter sur un ring et tu vas te taper. Mais au final, c'est là où tu vois que c'est plus fraternel que quand tu joues en sport co. Parce que lui, il va dire, ouais, lui, il est plus fort que moi, techniquement.
Ça s'énervait plus au foot, dans les vestiaires, contre les autres équipes.
C'est exactement ça, tu vois.
Que dans les clubs de...
C'est un sport individuel, mais ça t'apporte tellement de choses, je pense, en termes de partage que tu vois. Et c'est ce qu'on retrouve aussi sur toi et ta carrière et comment tout ce que, les choses que t'entreprends, tu vois. T'as envie de donner aussi, tu vois.
C'est
ça.
Tu vois. C'est du partage, c'est, le fait, voilà. Pourquoi j'ai monté Fighting Beat aussi, c'est le fait de pouvoir rendre ce que le sport m'a donné. Moi, ça a changé ma vie, clairement. Quand j'ai fait le choix de me focus sur le MMA, sur tout ça, c'était un moment charnière, un peu, où j'avais des potes qui commençaient à monter monter sur des plans.
Okay.
Des potes qui commençaient à se poser avec leurs meufs et des potes qui faisaient rien. Et j'avais le choix, voilà, qu'est-ce que je fais, mais je fais quoi et tout. Et je commençais à aller vers ceux qui montaient sur des plans.
Okay.
Jusqu'à ce qu'il se passe un truc grave et j'ai dit, ah non, à partir de là,
ça sert à
c'est
rien.
Mort.
Voilà.
C'est mort. Et voilà, je suis passé à autre chose.
Et toi, tu t'es focus, comme tu disais, sur le sport.
C'est ça, sur le sport.
Nickel.
Écoute Malik, on va s'écouter un autre petit morceau, on va s'écouter Kill Them de Souffrance et on se retrouve tout de suite.
Ça marche.
Survivant du pogrom, j'aime l'hiver, j'aime l'automne. On t'arrache le concogne, y'a Bana dans le venom. Fidèle, l'homme ne l'est même pas à lui-même. Kill them, Kentucky Fried Chicken. Yes, weekend, kill them, Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken. Weekend, kill them, Kentucky Fried Chicken. Ils veulent trouver des Nabila. On veut trouver notre Aïcha. Peuvent nous tuer, on ressuscitera. Jésus le califat, personne nous neutralisera. C'est pas cette bande de serpents qui nous humanisera. Je leur jette des ailes de pigeon à la Zlatan Ibra. L'énergie rapportera qui la canalisera. Zombie tire sur le Panzer Dragoon. Trahimon jumelé avec Raccoon. Je rentre désarmé dans le saloon. Je ressors avec une armée de maboule. Commandant Massoud, général Platoon. Damn, je navigue dans la jungle urbaine. Des mecs qui pleurent comme ça, il en a qu'un sur terre. J'ai cramé son cœur, je vais allumer sa mère. Y'a du sang par terre, j'en pleurais, j'en pleurais. Y'a du sang par terre, c'est le mien, c'est le mien. Y'a du sang par terre. C'est sûrement tant peu que je mis le revolver.
Kentucky Fried Chicken, yes we can. Kill them, Kentucky Fried Chicken, kill them. Kentucky Fried Chicken, yes we can. Kill them, Kentucky Fried Chicken, kill them.
Vous écoutez Focus tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM. On vient de s'écouter un morceau de Souffrance, Kill Them. On est avec Malixila, combattant MMA, entrepreneur, consultant chez Canal.
Multicasquette.
Multicasquette, éclectique. On a l'habitude des profils comme ça. Et vu que tu t'es combattant, on va parler un peu MMA. Tu disais tout à l'heure que quand tu avais commencé, l'univers, le monde du MMA n'était pas le même. Qu'est-ce que tu penses du néo-MMA de la vitrine d'aujourd'hui?
Je suis très satisfait de voir la direction que ça a pris, surtout en France. Faut savoir que le MMA, c'était illégal jusqu'à il y a encore quelques années.
Jusqu'à il y a deux, trois ans, hein.
Ouais.
C'est ça, ouais.
Le terme est 2020, illégal, ouais, fort, hein, ouais. Illégal. On pouvait pas combattre. Les gens disaient, les politiques parlaient d'atteinte à la dignité humaine. Le fait que de frapper quelqu'un au sol. Et nous, on disait, mais le fait de frapper quelqu'un qui est au sol, c'est pas quelqu'un qui est sans défense. Au contraire, on a des techniques. Vous allez voir, on sait faire ça, ça, ça. Donc oui, le MMA est structuré, le MMA est organisé, il y a des galas, il y a des gros combats qui se font. Donc c'est une bonne chose que de pouvoir j'ai pas combattu encore dans les règles du MMA en France, c'est quelque chose que je souhaite faire, j'espère faire très prochainement. Mais ça a pris une bonne direction, donc je suis assez satisfait de voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui.
Et justement, donc le MMA, t'es combattant et maintenant aussi t'as une autre casquette. On en a pas parlé, mais t'es commentateur aussi sportif MMA.
Oui, je suis consultant pour Canal Plus.
Canal Plus,
c'est une grosse chaîne.
C'est exactement ça, tu vois.
C'est quelque chose. J'ai eu cette opportunité là.
Et justement, comment t'as eu cette opportunité? C'est quoi? C'est
ça faisait
lors d'un combat.
Quelques temps, non. Ouais. J'ai connu Benjamin qui est venu chez vous. Benjamin, ouais, qui avait une émission à l'époque. Une émission qui s'appelait No Contest.
C'est ça.
Ouais, c'était une des premières émissions sur le MMA, sur le dans le PAF, on va dire. Lui, voilà, il a été, c'était un vrai passionné, un vrai charbonneur. Il était sur le terrain, il faisait des interviews, il faisait des signes, ce grand fumier comme j'aime l'appeler, parce que voilà, il allait chercher ses trucs.
Exactement ça.
Il allait chercher ses trucs. Donc on s'est plutôt bien entendu. Et un jour il m'appelle, il me dit voilà, tu risques d'avoir un appel de telle ou telle personne parce que on cherchait un commentateur et tout, et j'ai pensé à toi parce que voilà, il avait donné une liste de noms et ils m'ont contacté et par ce son biais,
d'accord,
voilà, j'ai pu intégrer Canal Plus. Et aujourd'hui, j'ai même suite à tout ce qui a été fait, j'ai intégré Canal France, c'est-à-dire que le MMA en France maintenant, quand c'est diffusé sur Canal, c'est moi
parce qui que
commente.
Vous avez pris les droits à Arès, c'est ça
Canal Plus a pris les droits de diffusion de Arès. Donc voilà, je me retrouve premier commentateur de MMA sur la grosse chaîne Canal.
Ok, on suit de toute façon. Malik aussi, il est là.
Carrément. Mais je pense qu'ils ont fait un bon choix parce que, enfin, t'as les connaissances bien plus que nous, j'imagine, et t'as l'éloquence qui va avec. Donc merci. Je pense que ça colle parfaitement.
Et justement, c'est quoi qui est plus dur à faire aujourd'hui? C'est monter sur le ring ou commenter des gens qui montent sur le ring, justement? Par rapport, justement, tu te dis pas, moi je suis là, je suis en train de commenter, mais en fait, j'aimerais être sur le ring, et tu vois.
Il y a eu un temps d'adaptation. Okay. J'ai eu le bonheur d'aller à Los Angeles commenter Cyril Gane contre Ngannou.
Incroyable.
C'était incroyable, la salle et tout. Donc quand je me suis retrouvé là-dedans, hein, dans ce chaudron, il fallait regarder la cage, il fallait regarder l'écran, il y avait un plateau en direct et tout. Ça change de faire des commentaires en cabine où t'es assis tranquille, tu peux même boire un truc en même temps. Et là, il fallait être live tout le temps. Donc j'étais un peu perturbé quand j'étais là-bas. Donc ça m'a servi aussi, ça m'a servi. Je me suis pas trouvé extraordinaire ce jour-là, mais je dis, là, j'ai appris beaucoup de choses. Et maintenant, quand il y a eu l'UFC Paris, parce que j'ai commenté l'UFC Paris, là, j'étais on fire.
T'étais dedans.
J'étais dedans. Et en ce qui concerne aussi l'organisation, alors on n'en a pas forcément parlé, mais j'organise aussi un gala qui s'appelle le Roll Up.
Parce que t'étais trop vif, en fait. Parce qu'on allait, on allait venir, justement. Okay, bon. T'inquiète pas, mais bon, tu peux commencer.
Ouais, pour parler du Roll Up, c'est le fait d'être déjà dans l'organisation, d'être dans le truc, comme on dit. Ça m'a aussi ouvert l'esprit sur peut-être que je pourrais faire ça comme ça. Ça serait bien que j'essaye de ça. Donc voilà.
D'accord.
Et énorme événement, très 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 connu.
Ouais, très connu.
C'est une référence en
grappling, hein, c'est ça?
C'est vrai. Alors le roll-up, c'est...
Ouais, si tu peux en parler un peu plus.
Le roll-up, on en est à la cinquième, on a fait la cinquième édition il y a pas longtemps. Et oui, c'est devenu l'événement de référence en France en ce qui concerne le grappling et le jiu-jitsu brésilien.
Ouais, c'est ça.
C'est un événement particulier. C'est un combat à la soumission. Pour gagner, il faut soumettre son adversaire. Et j'ai été le premier à le proposer sous cette forme-là. Pareil, les gens qui ont pas de vision. Moi, j'ai été à la mairie. Je dis voilà, j'aimerais avoir parce que j'ai quand même le soutien de la ville de Rueil. Okay. Ça aussi, c'est important.
Mais parce que tu leur rends bien aussi. T'es un peu médiatisé, aussi, voilà, tu vois. Donc
c'est ça. Je mets un peu
de lumière.
Je mets la lumière.
Tiens.
Dédicace à Caris. Je mets la lumière sur la ville. Donc quand il y a le Parisien qui fait un article, quand il y a des télés qui viennent et qui montrent le gala, quand moi je vais à la mairie, il me dit mais pourquoi vous voulez faire ça, il y a déjà de la lumière et tout dans le truc. Je dis non, je veux des spots, des trucs, faut que ça soit, c'est un show, c'est une soirée de fête. Donc quand le maire est arrivé pour la première fois au Roll Up, il a regardé, il a dit mais il a attrapé le j'ai payé, il a attrapé le directeur des sports, il a dit mais attendez, vous trouvez ça normal qu'une petite association là, elle organise un événement comme ça et vous faites quoi vous?
Ah là là, t'as foutu la merde.
Voilà. Il a dit ça normal.
Non mais c'est bien aussi, c'est bien de justement que c'est des assos comme ça qui se développent et qui montent des événements qui sont maintenant connus dans toute la France, tu vois.
Toute la France et à l'étranger aussi, des combattants venant d'étranger.
Et ça montre aussi que tu fais ça et que voilà, les connaissances, le fait de faire des choses, ben au bout d'un moment ça paye en fait, tu vois, parce que je pense que t'as pas commencé dans des grosses salles avec je sais pas.
Alors j'ai vu grand tout ça. Ouais. Et on a commencé dans une salle qui c'était 1000 personnes.
Ouais, quand même, hein.
Et on a rempli.
Ah ouais.
On a rempli, donc les gens ils arrivent, ils disent waouh, c'est quoi ce truc, c'est incroyable. Alors que techniquement il y avait des choses à revoir et tout. Donc on a à chaque événement on a rajouté des éléments et tout. Là encore j'ai eu la chance d'être bien entouré sur la technique. Sur l'organisationnel, voilà, je suis pas seul.
Ouais, c'est important.
Au début,
c'est important.
Sur le premier, j'ai cru que j'avais 10 000 bras, 10 000 têtes et que je pouvais tout faire tout seul. Je suis fatigué.
Ah bah c'est sûr.
Je suis grave fatigué. Donc après, voilà, c'est déléguer aussi. Ça, plus on monte, plus on a besoin des autres.
C'est ça.
Et plus on a besoin aussi de déléguer parce qu'on peut pas tout gérer tout seul.
Vous avez entendu l'équipe de Tous Ensemble, hein? Pour l'émission Focus, hein. Merci, belle dédicace, merci.
Non, mais c'est on va plus taffer là.
Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est cool, c'est cool.
Et là, on parle de sol, de grappe, de JJB. Toi, t'as commencé par la boxe anglaise.
Ouais.
On sait que le MMA, enfin, tout le monde ne le sait pas forcément, mais à la base, c'est des personnes qui viennent de sports différents. Est-ce que pour toi, on doit se spécialiser dans un sport avant de commencer, parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de pratiquants qui sont attirés par cette discipline et qui commencent directement par le MMA.
C'est vrai en plus.
Non, ma vision justement elle a changé là-dessus. Avant, oui, on venait de différentes disciplines. Aujourd'hui, on fait du MMA et le MMA déjà c'est spécialisé. Le MMA qui a différents compartiments, c'est un sport ultra spécialisé en lui-même. Donc quand je boxe, je fais de la boxe pour le MMA. Quand je fais du sol, je fais un sol pour le MMA. Alors si je fais du grappling avec des berimbolos, tout ça, j'essaie de faire ça en MMA, je vais me faire ouvrir la tête.
Ouais, ouais.
Donc tout ça, c'est spécialisé, c'est propre à la discipline. La lutte, c'est une lutte pour le MMA. Donc ces compartiments-là, il faut
voilà. Il faut les associer.
Voilà, il faut les associer. J'encourage les gens à moins dissocier les trucs, genre boxe, lutte, truc, parce que la boxe, la lutte et tout, ça fait partie du MMA déjà. Donc, il faut bosser sa boxe pour le MMA, sa lutte pour le MMA, son sol pour le MMA, parce que c'est spécifique déjà.
C'est devenu un sport.
C'est devenu un sport à part entière. C'est quelque chose d'important.
Mais il y a quand même des petites appétences dans les clubs. Il y en a qui vont quand même être un peu plus
ouais,
au sol, un peu
y a,
plus debout.
Et au-delà des clubs, au-delà, il y a des impétences au niveau des personnes. Il y a des gens qui
aussi,
sont
ouais,
plus doués
sûr.
Sur du striking que sur du grappling ou sur de la lutte. Et c'est ça aussi la spécialisation. Plus on évolue, surtout sur des profils compétiteurs, il faut être focus, augmenter les forces de son élève et gommer ses défauts. Mais s'il est fort en lutte, augmenter ce paramètre-là. S'il est fort en boxe, augmenter ce paramètre-là. Et
sans négliger
les curseurs après, voilà, sans négliger le reste et faire monter tous les curseurs petit à petit. Mais si son point fort c'est le striking, il a la chance de faire du MMA, il peut amener le combat là où il veut. Donc à lui d'aller bosser, d'amener son game, son jeu là où il peut être le plus performant.
Très bien.
Ah ben bah c'est cool hein.
On se lance le dernier petit morceau de Jamal.
Exactement.
Et on revient tout de suite pour conclure, hein, ce sera la fin.
Ah, ça passe vite hein, déjà.
Ça passe
déjà,
vite carrément, putain. On te laissera le mot de la fin Malik.
How can I love somebody else? if I can't love myself enough to know when it's time, time to let go.
What's inside my jeans? She want my heart with the lie. She wanna throw away the key. She make love, she don't give fuck. Gang, gang, gotta throw in the beats. She like, boy, don't do me wrong. Just Birkin, proud of me.
As toxic as they come, but I really love her. Got her out here competing with my baby.
All I really want is to be happy.
On est de retour sur l'émission Focus tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM Radio 98FM avec notre invité Malik Sylla. Et on vient de s'écouter Toxic de YG. Ah là là, essaye de me reprendre, essaye.
Magnifique, René. Mais j'ai tu t'appliques parce qu'on a un bilingue parfait de vous.
Il va me foutre la honte tout de suite là. Trois mecs, ça fait 20 ans, il va à New York. Malik, justement, là, on arrive à la fin, malheureusement, mais juste, qu'est-ce qu'on peut... C'est quoi la suite pour toi? Parce que là, t'es sur plein de projets, c'est quoi?
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Souhaitez-moi de l'inspiration, souhaitez-moi longue vie, souhaitez-moi de la santé, et je continuerai à proposer des choses. Là, en termes de projets, j'aimerais m'attaquer un peu aux médias,
okay,
pour voir... proposer du contenu intéressant lié au sport de combat, sachant que voilà, j'ai un pied chez Canal. Okay. Ça m'a donné beaucoup d'idées, beaucoup de projets, des perspectives aussi différentes. Donc ça sera dans ce côté-là.
Et sous quelle forme? Sous forme télé, sous format télé, vidéo,
format
YouTube,
format vidéo, okay, un podcast.
OK.
Un podcast vidéo. Je vous donne une exclue.
Ah ouais, bah c'est bien, on est là pour ça aussi, c'est focus, vidéo, on fera un focus spécialement
qui,
sur...
Qui s'appelle Je suis un fighter.
Ok.
Et qui dit fighter, dit pas forcément combattant de MMA. Un fighter, ça peut être un père de famille qui se bat
ouais,
pour
c'est
sa
ça.
Famille, qui un DJ qui essaie de percer, un sportif qui essaie de s'en sortir. Voilà, il y a plein de choses à développer là-dessus. Ok. Donc voilà, du format vidéo, voilà, des choses autour des médias, de la musique aussi.
La musique, et parce que on sent, j'ai pas dit tout à l'heure, mais on sent quand même, tu vois, on parlait de regrets, et quand même, on dit qu'on n'a pas de regrets, mais là, sur la musique, il y a quand même,
il y a des choses à faire, il y a des choses à dire, il y a encore beaucoup de choses à partager, il y a encore beaucoup d'inspiration, et voilà, porter de la musique sous une forme différente.
D'accord. Et t'as déjà réfléchi à ça?
Déjà, il y a déjà tout.
Là, on va. Attention ici, on aime bien les exclus. Hein. Ouais, on a un DJ, il peut lancer
déjà
tout de suite.
Beaucoup de choses qui ont commencé, qui sont mises en place. Donc voilà, c'est ça mon souper.
Et tout en indépendant ou t'essaies?
En indépendant, freedom, liberté. Après, si
on vient me chercher,
quelque chose, si on vient me chercher, qu'il y a une opportunité win-win, oui, okay, pourquoi pas. Avant, le Graal, c'était signé en maison de disque.
Exactement.
Avant, c'était ça. Mais quand tu vois ce que ça te rapporte entre guillemets d'être artiste en maison de disque, même ton nom il t'appartient pas, alors que quand t'es en indépendant, bah c'est plus dur, mais les fruits aussi c'est toi qui les récoltes. Donc voilà, reste à voir si c'est win-win, pourquoi pas.
Écoute, si tu veux nous envoyer des exclus, nous on les met en playlist sur Focus, hein, avec plaisir en tout cas.
Bah carrément, si on peut te réaccueillir pour l'aboutissement d'un projet, ce serait l'occasion. Est-ce que t'as un petit mot de la fin peut-être pour les plus jeunes qui nous écoutent, qui veulent se lancer dans le sport, qui veulent entreprendre ou...
Ah, c'est des généralités peut-être ce que je veux dire, mais déjà aimez-vous suffisamment, croyez en vous et lancez-vous, n'ayez pas peur de perdre, n'ayez pas peur de tomber, n'ayez pas peur de l'échec, parce que ça fait partie de l'apprentissage en vrai. Quand on est petit, on court, on tombe, on se relève, personne n'est resté par terre en disant non, je marche plus. Ça n'existe pas.
C'est vrai.
C'est quand on grandit, on capte les peurs qui nous entourent et ça nous limite. Alors qu'en vrai, on est capable de tout.
En tout cas, merci Malik Sila, justement, d'avoir accepté l'invitation. Merci Malik.
À toi, Sidji. Merci Malik aussi.
Merci Jam, merci l'équipe. Et franchement, super interview, super émission. Et à très bientôt sur Focus 98 FM.